With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission bimensuelle où on essaye de vous résumer toute l'actu gaming en faisant un petit peu d'analyse de ce qui se passe dans l'industrie. On fait pas trop de review de jeux, même si bon, on parle quand même un petit peu de jeux de temps en temps. Ça m'arrivera d'ailleurs, j'ai redécouvert un jeu dont je vous parlerai peut-être pendant l'émission et que je n'ai pas pu poser pendant ces derniers jours. Mais surtout, donc, on va vous parler des news essentielles de ces deux dernières semaines, en particulier de la Games Developer Conference, avec en français dans le texte, avec des annonces de la Steam Machine, du Steam Controller, de Steam VR. Bref, c'est la fête de Steam. Mais on a aussi d'autres choses, bien sûr, dont on va vous parler, avec Morpheus, avec des conférences, d'ailleurs, discussions qui ont eu lieu pendant la conférence des développeurs qui étaient plutôt intéressantes, et puis toute une série de petites news en plus. Bref, un programme chargé pour lequel j'ai un camarade de longue date, un ami très cher qui m'accompagne et que je pense certains d'entre vous connaîtront déjà, puisqu'il s'agit de Monsieur Daniel Charby, également connu sous le doux pseudonyme de Dany, des amateurs de d'Azeroth.fr. Comment vas-tu, Dany?
Eh ben bonjour Patrick, ça fait longtemps. Écoute, tout va bien. J'ai suivi aussi toutes les nouvelles là de la GDC et franchement, il y a pas mal de trucs qui ont l'air assez excitants.
Bah, je pensais à t'inviter dans l'émission depuis un moment et pour le coup, ça tombe bien parce que bon, pour être parfaitement transparent avec mes auditeurs, généralement, je refuse les opportunités d'interview et les contacts directs avec les développeurs. Je dis pas que c'est quelque chose qui me plaît pas, mais bon, j'adore pas le format interview, donc là, ça sera pas une interview. Mais il se trouve que, comme par hasard, tu as un poste important chez Alienware et que il y a des annonces Alienware qui ont lieu à la GDC, donc tu vas pouvoir
nous
en parler.
C'est incroyable, là. Cause.
Mais bon, on fait l'émission normalement, hein. Tu n'es pas monsieur Alienware, c'est juste que tu peux.
Non. Ici, là, j'essaierai, enfin.
Tu vas pas mettre ton costume
ni mes produits,
de
etc. Je vais essayer Pierre. D'être le plus objectif possible et voilà, je suis surtout là pour faire un podcast avec toi comme au bon vieux temps.
Magnifique. Bon, donc comme on le disait, on va parler beaucoup de la GDC qui est encore en train de se tenir aujourd'hui. On a décalé un petit peu l'enregistrement de l'épisode pour être sûr d'avoir toutes les informations importantes. Et c'est vrai qu'il y a des informations assez importantes et assez excitantes. On va commencer tout de suite par faire plaisir à la PC Master Race, en parlant des Steam Machines qui vont envahir le monde des consoles aussi et qui en tout cas sont présentées, datées, annoncées avec leur contrôleur. C'est-à-dire que Steam, lors de la GDC, a enfin déclaré qu'elle serait enfin annoncée la date de sortie approximative des Steam Machines. Elles sont finalisées et elles arriveront en novembre dans le monde entier avec une description un petit peu intéressante qui est, ce sera pour le prix des consoles de génération actuelle, mais avec beaucoup plus de puissance. Et ils ont annoncé des machines de chez Alienware, de chez Falcon Northwest, de Zotac, enfin il y a plusieurs constructeurs partenaires. Et surtout, le truc encore plus important, c'est que le contrôleur Steam, qui est la pièce maîtresse, la clé de voûte du système Steam, sera également disponible à ce moment, évidemment, pour $50 et il a été finalisé. Petites impressions. Alors, évidemment, Alienware fait partie du groupe de départ pour les constructions de, enfin, les partenaires sur les Steam Machines. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est qu'une Steam Machine, pourquoi c'est important, pourquoi Alienware s'y intéresse? Enfin, c'est assez évident, mais nous faire le topo.
En fait, au niveau historique, c'est assez marrant parce que je pense que Alienware est pas mal en fait à la source du développement de SteamOS et des Steam Machines en général, parce que à la base, quand Steam avait lancé son mode Big Picture, on l'avait lancé sur l'Alienware X51, donc tu sais, c'est un format fin, petit pour un ordinateur de bureau, taille d'une Xbox 360 à peu près.
PC, mais qui est très compact.
C'est un PC vraiment, enfin vraiment un form factor extrêmement réduit. Et donc à la base, on s'était rapproché de Steam à cette époque pour dire, en gros, voilà, on aimerait intégrer Big Picture, etc.
Pour ceux qui savent pas, s'il y a des gens qui n'aiment que les consoles ici, Big Picture, c'est un mode pour Steam qui change l'interface de manière à pouvoir la rendre utilisable principalement sur une télé, ou en tout cas sur un très grand écran.
Avec une manette surtout.
Oui, tout à fait.
C'est surtout ça l'intérêt. Et donc voilà, et les discussions avaient commencé à cette époque-là, donc il y a, je sais pas, 3 ans, quelque chose comme ça. Et à partir de là, nos équipes de développement produit se sont dit, enfin avec Steam, main dans la main vraiment, est-ce qu'on pourrait lancer un produit qui serait vraiment dédié en fait et qui sortirait donc de l'écosystème Windows pour avoir une interface plus simple, une utilisation plus simple et tout en gardant la flexibilité d'un PC. Et donc c'est à ce moment-là que, enfin je pense, hein, selon l'histoire en tout cas, que Steam et donc Valve se sont mis à développer SteamOS et la manette.
Donc Big Picture existait déjà, mais c'est vrai que SteamOS, qui est une variation de Linux qui rentre dans un PC et qui transforme le PC en fait en Steambox, finalement, en machine qui ne fait tourner que Steam et qui se branche sur la télé avec un câble HDMI classique, donc ça le transforme en console, en quelque sorte, et... Ouais, vas-y.
Ça en fait une vraie console en fait, tout simplement une console, enfin une interface de console, tout en ayant la flexibilité en fait d'un PC. Et je pense que c'est l'avantage des Steam Machines finalement sur les consoles, c'est que quelle que soit la marque, hein, c'est finalement le jour où t'as envie de rajouter du stockage. C'est simple, enfin c'est relativement simple. Le jour où t'as envie de rajouter une carte graphique plus puissante sans avoir à changer la machine, bah, tu peux le faire facilement.
C'est, à vrai dire, ça va même encore plus loin que ça, je trouve. En l'occurrence, l'Alienware, parlons tiens du prix et des capacités, puis je parlerai d'une manière générale de l'écosystème Steam Machines ensuite, qui pourrait être vraiment intéressant. Donc l'Alienware Steam Machine, il coûte aux États-Unis $479. Tu sais combien ça coûtera en euros ou pas?
Écoute, c'est un peu tôt pour le dire en ce D'accord. moment, mais en général, on est aligné avec les prix américains. Ce qu'il faut savoir, c'est $479. Les prix américains n'incluent pas la TVA, donc ce sera vraiment très proche.
Autour de 500 euros, quoi.
Voilà, entre 450 et 500. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que la Steam Machine Alienware, c'est une version de l'Alpha, en fait, de l'Alienware Alpha, qui a déjà été lancée il y a quelques mois. Ouais. Donc c'est vraiment format console avec Windows 8.1. Et donc là, ce sera la version en fait SteamOS fournie avec la manette Steam. La machine sera vraiment équivalente à ce qui existe aujourd'hui, mais vraiment pour l'écosystème Steam.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a, comme on le disait, d'autres form factors. Il y a la machine Zotac qui est un petit peu plus chère. On n'a pas les prix exacts, mais elle est un petit peu plus chère, mais très très compacte. On a une machine Falcon Northwest, etc. Donc l'univers des SteamOS est vraiment ouvert, modelé sur le PC. En fait, c'est des PC, quoi.
C'est des PC, et surtout que demain tu peux prendre ta tour que tu montes toi-même, tu installes SteamOS dessus, t'as la manette SteamOS, bah voilà, c'est t'as ta
Steam Machine, ouais.
T'as ta Steam Machine. Bon, sans doute moins compacte que ce que vont proposer les producteurs de PC, ouais. mais sinon voilà, ouais, c'est l'avantage, c'est vraiment très ouvert.
Ce qui est intéressant en fait avec ces Steam Machines, c'est que bon, aujourd'hui les Steam Machines coûte à peu près le prix des consoles de salon, mais il n'est pas du tout impossible qu'à terme, ou même assez vite, il y ait des versions un petit peu moins chères qui soient disponibles, ou des versions même plus chères qui tournent mieux, mais au prix des consoles de salon, effectivement, elles sont beaucoup plus puissantes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la PlayStation 4 et la Xbox One, c'est des architectures de PC. En fait, c'est vraiment, en gros, des PC, quasiment des PC à l'intérieur, mais des PC spécialisés avec l'OS de Sony ou de Microsoft dans le ventre. Et c'est pas, c'est même pas des PC particulièrement puissants. En fait, c'est des PC pour il y a 2 ans quand ils sont sortis qui étaient corrects mais pas invraisemblables. Et en l'occurrence, ça veut dire que les Steam Machines qui sortent au même prix aujourd'hui sont a priori plus puissants et qu'il est possible d'avoir des Steam Machines en théorie qui soient moins chères et qui soient bien sûr moins puissantes mais beaucoup moins chères et qui va tourner les mêmes jeux parce que franchement aujourd'hui on n'a pas besoin d'un PC à je sais pas, 600, 700 euros pour bien faire tourner les jeux. Un PC, bon, si vous montez un truc à 200 euros, évidemment, ça va pas être le foudre de guerre. C'est même difficile à monter pour 200 euros, mais c'est pas totalement impossible en théorie. Donc, il y a une flexibilité, comme tu le disais, qui est impressionnante avec les Steam Machines.
Voilà, et en plus, maintenant, de nos jours, c'est sûr que si tu veux jouer juste en, entre guillemets, hein, en full HD, oui, enfin, un bon PC, ça va te coûter entre 500 et 1000 euros, ou une bonne Steam Machine entre 500 et 1000 euros, ça suffit largement pour jouer dans des détails et avec des détails graphiques qui vont être nettement supérieurs, à mon avis, à ce qu'on peut trouver sur la majorité des jeux consoles, hein, qui sont plus limités, effectivement, dû à leur ancienneté.
Et en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me demande s'il va pas être possible avec des processeurs moins grosse capacité, des cartes graphiques intégrées, etc. Enfin, est-ce qu'il est pas possible avec un petit processeur Intel, un petit peu de RAM, de se monter une Steam Machine super bon marché, un ensemble tout intégré, genre comme c'est comme pour un portable. De faire une machine qui tourne, bon évidemment ça satisfera pas les gamers les plus furieux, mais ça peut faire tourner tous les jeux, parce que enfin presque tous les jeux ou une bonne partie, parce que l'avantage qu'on a sur PC, c'est que tous les logiciels s'adaptent à la puissance de ta machine. Sur console, bah tu peux pas créer une console qui soit moins chère et le jeu tu le mets dedans, bah il tourne pas, il a besoin de son système spécifiquement designé. Alors que sur PC, tu mets n'importe quoi, ça tourne. Et, alors bien sûr, tu vas peut-être pas faire tourner The Witcher 3 en
4K,
mais par contre, il me semble pas du tout impossible de faire tourner une bonne partie des jeux en détail limité sur une machine très bon marché, quoi. Donc ça donne des options.
Et surtout, 2 ans après, finalement, quand ta machine elle commence à ramer un petit peu, 2 ou 3 ans après, bah tu changes une ou deux composantes et t'as une nouvelle machine, tu vois, sans rajouter une fortune en fait. Le tout, en fait, je pense que le défaut des PC que tu vas monter toi-même, c'est qu'en général les gens ils regardent surtout ils vont regarder les composantes principales évidemment, comme la carte graphique vitale, le processeur, c'est très important, etc. Mais finalement aussi t'as la qualité du châssis, de la carte mère, l'alimentation, les tensions, etc. Le système de ventilation, de refroidissement. Et je pense que c'est surtout ça en fait qui va rajouter à la note sur un PC. En contrepartie, quand t'achètes une tour de bonne qualité, bah tu la gardes 10 ans.
C'est sûr. Bah bon, accessoirement, moi, je monte peut-être mes PC. Encore que maintenant, j'ai plus tellement envie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en l'occurrence, la Steam Machine d'Alienware, j'imagine que c'est le cas pour certaines autres, d'autres marques aussi. Mais tout est, comme tu le dis, tout est upgradable. Tu peux changer.
Alors
sur la Steam
Machine d'Alienware, il y a que la carte graphique en fait qui n'est pas upgradable. Elle est soudée à la carte mère. Mais sinon, le processeur, la mémoire, le disque dur, oui, c'est tu peux les mettre à jour. Et je l'ai moi-même ouvert. En fait, et effectivement, toutes les composantes en fait sont accessibles de manière relativement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique en fait pour rajouter un disque dur ou un SSD à l'intérieur.
D'accord. Et l'autre élément clé de cette annonce, c'était la finalisation du Steam Controller. Et le contrôleur Steam, en fait, c'est évidemment la clé de voûte, comme je le disais, de la Steam Machine, parce que c'est bien beau de mettre les jeux PC sur votre grande télé et de vous affaler dans le canapé, vous n'allez pas vous trimballer avec le clavier et la souris, et contrôler un jeu PC avec une manette, et franchement, a priori, c'est mission impossible. Pour certains, ça marche, parce que c'est des jeux qui sont cross-platform, développés sur PC, console, etc. Et donc, on peut déjà brancher une manette et les contrôler comme on le ferait sur console. Mais pour certains, c'est plus compliqué. Pour certains, c'est carrément mission impossible. Et le pari de Steam, de Valve avec le avec SteamOS, c'était de fournir aussi une manette qui soit agréable à utiliser quand on est affalé dans le canapé, justement, mais qui permette de contrôler les jeux de manière satisfaisante. Et ils ont sorti, je sais pas, peut-être 5-6 itérations de cette manette avec des formes complètement différentes. Il y en avait où il y avait que des trackpads. Il y en avait où il y avait des écrans sur la machine, des écrans tactiles. Il y avait plein de versions différentes. Et au final, la version qu'ils ont est une sorte de compromis de tout. Et d'après tous les tests des gens qui les ont eus entre les mains, aussi incroyable que ça puisse paraître, ça fonctionne. Alors, la forme finale, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, c'est une manette qui est dans la forme un petit peu comparable à une manette de console, sauf que vous avez un stick analogique sur la gauche, 4 boutons sur la droite. Là, c'est comme un morceau de manette Xbox. Et en plus de ça, vous avez un petit peu excentré, un petit peu plus haut, en dehors du bas excentré, vous avez deux sortes de trackpad, dont l'un au moins est cliquable, et l'autre, en fait, à droite, c'est cliquable si je ne m'abuse, et à gauche, il y a une sorte de croix en indentation dans le trackpad, et il reproduit l'inertie de la souris pour contrôler la souris, le pointeur, comme vous le feriez avec une souris. Et c'est un petit peu plus comparable.
Moi, ce que j'ai lu là-dessus, en fait, c'était que c'est plutôt comparable à un trackball plus qu'à une souris.
Exactement,
en fait.
Exactement. Ouais. Ouais. Bon, ça contrôle le pointeur, mais oui, c'est un petit peu comme un trackball, effectivement. Et visiblement. Et en plus de ça, il y a 6 boutons à l'arrière de la manette, donc 2 sur les gâchettes, et puis 2, enfin, un de chaque côté, qui sont accessibles avec l'auriculaire et le petit doigt. Donc.
C'est le petit doigt à l'auriculaire. C'est l'annulaire, l'auriculaire, je pense.
Pardon, et l'annulaire, c'est
l'annulaire,
ça.
Oui.
L'auriculaire et l'annulaire. Mais c'est exactement ce que j'ai dit, Dany. Qu'est-ce que tu racontes?
Écoute, je propose à nos auditeurs d'insulter notre
Mes
cher
connaissances
Patrick
de nos doigts. D'accord.
Pour sa mauvaise foi.
Donc, l'auriculaire et l'annulaire peuvent appuyer sur un petit bouton en plus, donc ça reproduit énormément de choses. Et en plus, les gâchettes peuvent être utilisées dans les formats qu'ils avaient présentés. Par exemple, pour viser en appuyant un peu sur la gâchette et tirer en appuyant un petit peu plus. C'était ce genre d'utilisation qu'il préconisait. Et en plus, il y a un système qui est très malin, comme toujours avec Steam, de participation de la communauté pour créer des profils de manettes pour les différents jeux. Donc, vous n'avez pas vous-même à aller chercher le profil qu'il faut, refaire la configuration de la manette. Vous avez sélectionné le profil préféré de la communauté, où il y en aurait 2-3. Vous choisissez celui qui vous semble le meilleur avec tel jeu. Et vous utilisez la manette au mieux avec les jeux qui correspondent. À ton avis, c'est la solution ultime? On va pouvoir jouer à tous les RTS de la Terre depuis notre
Écoute,
canapé?
Pour l'instant, je dirais rien là-dessus. Je l'ai pas essayé moi-même. Honnêtement, enfin, si on... ok, StarCraft par exemple n'est pas sur Steam, StarCraft 2, mais c'est un des jeux que j'aurais beaucoup beaucoup aimé essayer avec cette manette, parce que finalement, si on arrive à jouer à StarCraft 2 et en étant relativement efficace, je pense qu'on doit pouvoir gérer la grande majorité des jeux du marché. Hein.
C'est sûr que c'est les jeux les plus compliqués. Il y a des RTS de ce genre-là qui sont vraiment compliqués. Si vous êtes fan de FPS, genre vous êtes un adepte de Counter-Strike, a priori, de toute façon, vous n'allez jamais jouer avec une manette. Au contraire, si vous entendez parler de quelqu'un qui joue avec une manette à un FPS, vous allez cracher par terre en le dénigrant. Mais pour la plupart des jeux, ça pourrait suffire pour les amener à la console.
Mais en fait déjà il y a une grande partie des jeux qui fonctionnent relativement bien avec une simple manette Xbox 360,
ouais,
sur Steam. Donc finalement je pense que pour moi les deux intérêts de cette nouvelle manette, c'est un, effectivement tous ces jeux qu'on peut gérer pour l'instant qu'avec un clavier et une souris, et deuxièmement ensuite ça pourra sans doute permettre aussi de développer des nouvelles idées, de nouvelles manières de contrôler les jeux sur PC.
Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé même à l'innovation, mais.
Mais je pense que voilà, pour moi, c'est plutôt une innovation et arriver justement à sortir de cette contrainte de voilà, c'est quand même vachement bien un clavier et une souris. C'est difficile pour une manette de remplacer ça. Peut-être qu'à terme, avec la manette Steam, ils y arriveront. Hein. peut-être que plus que SteamOS, je pense que la révolution, effectivement, peut arriver par cette manette.
Et elle coûtera $50 aux États-Unis, mais elle sera disponible dans le monde entier à partir de novembre. C'est effectivement pour moi l'aspect le plus important de SteamOS et je suis très curieux de l'avoir dans les mains. D'ailleurs, il y a un autre élément qui est intéressant. On parlait de trucs bon marché, c'est le Steam Link. T'as vu ce que c'est, ce Steam Link?
Écoute, pour l'instant, je reste quand même dubitatif. Ouais. Alors, donc, c'est une solution de streaming pour nos éditeurs qui fonctionne exclusivement donc avec Steam. Ok, l'idée en soi elle est bonne parce que le produit est pas très cher, c'est 50 dollars, donc sans doute dans les 50-60 euros. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ok, en théorie, c'est supposé streamer du full HD à 60 images secondes. Maintenant, en pratique, je pense que ça dépendra aussi pas mal du PC qui est derrière, de la distance qu'il y aura entre la box et le PC, et finalement, ça rajoute une machine de plus. Sous un meuble télé qui doit être déjà plutôt bien chargé. Il faut voir. Moi, écoute, pour l'instant, quelle que soit la solution streaming, même si on outrepasse en fait les contraintes techniques en fait et les possibilités de perte d'image, lag, etc. Je reste pas persuadé de l'intérêt de ce genre de choses par rapport à une machine dédiée. Bon, ensuite, c'est vraiment pas cher.
Oui, c'est sûr, c'est ça le truc, c'est que à $50 ou 50 euros ou 60 euros, ce que c'est, et en plus elle est minuscule, c'est genre un Apple TV ou ce type de format ou de taille, c'est vraiment tout petit, ça peut être une solution intéressante si ça fonctionne, c'est sûr. Ça rajoute un petit lag a priori, très certainement, mais...
Ouais, donc déjà pour tous ceux qui sont des pro gamers qui vont jouer à Dota ou à LoL.
Ah mais bien sûr, mais c'est pas pour eux, ça c'est
mort,
évident.
C'est pas pour eux. Mais en fait, de toute façon,
ça peut même pas streamer ces jeux-là puisqu'ils sont pas sur Steam. Donc
si Dota oui, Dota 2 pardon.
Ah oui, Dota 2 bien sûr, je suis bête.
Mais voilà, et pour moi l'intérêt en fait d'une box comme ça, c'est aussi si tu arrives à avoir par exemple une décompression des DivX, lecture des MP3, etc. En branchant un petit disque dur dessus, tu vois, il y a des ports USB, donc là effectivement ça pourrait rajouter un peu d'intérêt à ce type de machine.
C'est un peu l'Android TV, Apple TV de Steam, voilà. Pour les gamers quoi.
Exactement.
Ouais. Moi ça pourrait m'intéresser parce que j'ai mon PC juste à côté de mon, pas très très loin de ma télé. Et mine de rien, rien que le fait de dérouler le câble HDMI pour le brancher comme il faut, c'est déjà un peu pénible. Donc,
t'as pas essayé avec un câble en réseau
Un câble en réseau
un câble Ethernet, pardon. Un câble Ethernet.
Bah,
un câble
pour brancher réseau, sur la télé, pour streamer.
Pour le mettre en réseau, ouais, tu branches ton... Ouais, c'est vrai que...
Bah non, mais pour streamer l'image,
tu vois. De toute façon, il te faudrait une box de base pour recevoir en fait ton... Ouais.
Exactement. Donc, c'est peut-être cette box qu'il me faudrait.
Le souci, c'est que si tu le fais fonctionner en Wi-Fi, ça va être de beaucoup moins bonne qualité qu'avec justement un câble Ethernet. Par exemple, tu utiliserais cette box-là avec un câble Ethernet?
Bah non, j'utiliserais avec le Wi-Fi. Bon, tu t'essayes de me vendre ton Alienware, je comprends bien.
Voilà, exactement.
Un autre truc qui est intéressant et un petit peu intriguant pour les gens qui aiment le streaming, c'est la nouvelle version de la Nvidia Shield, ou en tout cas un nouveau truc qui s'appelle Shield de chez Nvidia, qui est une sorte de Android TV à $200, qui est une box qu'on branche à la télé, qui est en fait un Android, comme le Shield à l'époque où c'était une sorte de manette portable avec un écran, mais là c'est une nouvelle machine. Elle fait du 4K, elle est disponible en mai, elle coûte $200 comme je le disais, et c'est en partie dédié au streaming avec un service de streaming, un vrai service de streaming, donc pas depuis votre PC, pas en home network comme le Steam Link, mais là ils ont un service de streaming dédié à cette machine qui est dans le cloud, donc un petit peu comme le PlayStation Now ou OnLive ou ce genre de choses. Et ils ont, contrairement à OnLive qui a eu de gros problèmes pour ça, ils ont une bibliothèque qui a l'air correct, à savoir qu'ils auraient disponible The Witcher 3 quand il sort, une série de Arkham, donc Arkham City, Arkham Asylum, Shadow of Mordor, ce qui est le jeu que j'ai redécouvert ces derniers temps et que j'adore, mais comme c'est pas possible, j'y ai passé 30 heures dans les deux derniers jours, Il est franchement, peut-être qu'on prendra le temps d'en parler tout à l'heure. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Bon, c'est un service de streaming encore un. Là aussi, ça va donner de l'urticaire à Dany parce qu'il veut zéro lag sur ses machines. $200 pour une télé, pour une set-top box Android qui en plus peut faire tourner des jeux Android en local. C'est un peu une machine Frankenstein, mais ça pourrait être intéressant, je sais pas.
Ouais, bah alors moi déjà les jeux Android, ok c'est bien, mais finalement bon, ça,
on parle
ça
à des gamers
marché,
là.
Voilà, surtout que finalement t'as les mêmes sur ton téléphone, hein, donc bon, écoute c'est pas grave. Mais si on met ça de côté, en fait, je trouve que l'idée est bonne. Pour moi le souci c'est déjà il y a une partie des jeux qui seront jamais disponibles, notamment ceux qui sont sponsorisés par tu sais où, par AMD. Donc je doute qu'Nvidia offre du streaming en fait sur ces jeux-là un jour. Ensuite effectivement t'as le souci de la stabilité de la connexion, du lag, etc. Bon, toi et moi on a de la chance, on est reliés en fibre optique parce que voilà, on habite dans des grandes villes, mais quid en fait de la personne qui est en banlieue ou genre un peu loin d'une autre connexion ADSL, et qui a genre du répartiteur, voilà, et qui a un peu une connexion bof. Faut voir. En soi, je pense que c'est sympa, surtout que finalement l'intérêt de ce genre de machine-là, c'est que bah, une fois que tu l'as et si le streaming fonctionne correctement, bah t'as plus besoin de changer de machine jamais. Hein.
Ouais. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, moi personnellement, c'est vrai que je suis assez adepte des machines très polyvalentes et tant qu'à faire, si je vais, enfin très polyvalentes dans le sens plutôt les PC complets. Et si je vais choisir un truc qui va faire du streaming, je me demande si le Steam Link n'aurait pas ma préférence. Parce que pour le coup, c'est vraiment pas cher. C'est pas que j'ai envie d'avoir les jeux Android de toute façon. Donc, peut-être que c'est plutôt vers un truc vraiment bon marché que je me dirigerais. Mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Surtout qu'il y a un système d'abonnement pour le streaming qui fait que vous avez accès à une partie des catalogues, des jeux du catalogue gratuitement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il faudra voir combien coûte cet abonnement. C'est comparable au service PlayStation Now. Et à mon avis, c'est plus de là que vient l'intérêt du truc. Bien sûr, ça sera des jeux un peu plus anciens. Mais si on peut jouer à beaucoup de jeux PC pour, je sais pas moi, 5 ou 10 dollars par mois... et qu'on a un catalogue suffisant, ça pourrait être intéressant. C'est pas, encore une fois, c'est pas pour les fous de jeux PC, les acharnés de la PC Master Race, mais pour un certain type de gamer, ça pourrait être une option intéressante. À $200, finalement, c'est moins cher qu'une vraie console nouvelle génération. Et les graphismes qu'ils ont montrés en streaming, bon, c'était une démo dans un environnement contrôlé, etc., mais ils ont montré The Witcher 3 en streaming sur un écran énorme, c'était super beau. Super beau, vraiment. Donc bon, ensuite, effectivement, il faut avoir une bonne connexion et tout ça, mais The Witcher, vous le payez, je sais pas, le prix de The Witcher, vous avez la console moins chère, ça pourrait intéresser une partie du public, quoi.
Faut voir. En tout cas, je propose que tu l'achètes, hein, et ensuite, on ira laisser chez toi une après-midi pour
d'accord.
voir un peu ce que ça donne.
Bon, écoute, $200, peut-être que ça pourra se tester. Le problème, en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai déjà presque toutes les consoles. Il y a la Xbox One qui va arriver à un moment avant la fin de l'année. Je serais peut-être intéressé par un Steam Link pour tester. Et si c'est pas ça, je prendrai peut-être une Steam Machine. Au final, ça va commencer à faire beaucoup de machines sous la télé, quand même, c'est vrai.
Écoute, le Woman Acceptance Factor est une chose importante, donc je propose déjà que tu règles ce problème-là.
Et puis on parlera de
et
de
ensuite
tout ça,
on en reparle.
Bon, pour les vrais furieux, pour les vrais barbus, pour les vrais énervés du PC, Nvidia avait aussi une annonce qui devrait les intéresser. C'était l'annonce du Titan X. C'est ce que c'est le Titan X ?
Évidemment, ouais, évidemment.
On entend parler depuis longtemps.
Hein ? Bah oui, bon, écoute, bah déjà il y avait la Titan Z en fait qui était sortie quand il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, qui avait fait sensation à l'époque, et maintenant bah la version 2015 sort dans quelques semaines, donc c'est une carte graphique qui fait rêver, hein, mais à quel prix, c'est surtout
ouais.
ça.
Alors c'est le nouveau haut de gamme qui devrait arriver bientôt chez Nvidia. Qui a, tenez-vous bien, alors pour vous donner un ordre d'idée, généralement les cartes graphiques ont environ 2 à 4 gigas de RAM, c'est la moyenne, hein, pour les cartes graphiques normales. Certains en ont moins, je ne sais pas si certaines en ont plus.
Vous avez oui, il y en a qui en ont plus, il me semble. Hein. J'en avais déjà vu à 8, mais ça dépend, c'est courant. Ouais.
D'accord. Eh ben, en l'occurrence, là, il y en a 12 gigas de RAM sur cette machine. Bon, c'est sans doute une architecture Maxwell qui est commune aujourd'hui, mais boostée. À mon avis, c'est le genre de carte qui sort à quoi 800 000 euros, quoi. Pas 800 000.
Non. Mais... La Titan Z, déjà, à l'époque, quand elle était sortie, de tête, elle était à 2 000, 2 500.
À ce point-là?
Ah ouais, non, c'était extrêmement cher. Allez, peut-être, je m'en souviens plus très bien, mais peut-être, disons, 1 500. Mais oui, c'était beaucoup plus de 1 000 euros. Et voilà, donc
ah,
oui,
moi, je me rendais pas compte que c'était aussi cher que ça. Pour une carte graphique uniquement, quoi.
Disons, enfin, bon, ensuite, à l'époque, la Titan Z, c'était, il y avait deux processeurs de 780 dessus.
D'accord.
Donc, en sachant que chacun de ces processeurs, à la base, individuellement, serait vendu sur une carte graphique à 500-600 euros.
Ouais, c'est ça.
Déjà, tu fais la multiplication et t'as un prix, un prix relativement raisonnable. Donc, moi, je me suis précommandé une configuration avec triple carte graphique Titan X. Mon anniversaire est bientôt, donc si vous voulez faire des dons, je vais en avoir besoin.
Bon, Dany, je commence à mettre des sous dans mon cochon tirelire.
Mais je pense que ce genre de carte graphique, bon, déjà, c'est pour les enthousiastes. Mais en plus, je pense que même une configuration en triple 4K, je suis pas sûr que ça ait besoin d'autant de puissance.
Oui, c'est certain, oui. C'est vraiment pour donner la possibilité à ceux qui veulent des trucs monstrueux de les acheter.
Pour ceux voilà, qui c'est ont celui qui veut avoir la plus grosse puissance de calcul.
J'ai bien aimé la pause que t'as fait. Oui, bon, j'ai oublié de dire que la Nvidia Shield utilisait le processeur X1, qui est un processeur pour mobile normalement, qui a une puissance considérable pour un mobile. Donc bon, c'est pas tout à fait la Titan X, mais oula, qu'est-ce qui se passe, Dany? Je sais pas ce qui s'est passé, ça a fait un peu de bruit. Ça va?
Ouais, non, ça va.
D'accord,
ça va. Désolé,
okay,
j'ai l'impression
que t'étais
micro,
tombé
là.
Ok. Donc, c'est pas la puissance du Titan X, mais le X1, pour une machine, une petite machine, c'est une solution intéressante. Dernière annonce de, encore une annonce de Steam. Décidément, c'était vraiment la fête de Steam. Le Source 2 Engine, le moteur graphique Source 2 qui est annoncé, qui est gratuit pour les développeurs, donc gratuit, qui est la nouvelle version du moteur Source qui a beaucoup évolué depuis 10 ans mais qui était utilisé dans une tripotée de jeux, notamment de jeux de Valve comme Half-Life 2, Left 4 Dead, CS Source, je vais y arriver, et CSGO bien sûr, Team Fortress, etc., etc. Donc là, c'est la nouvelle version qui a été annoncée et qui inclut d'ailleurs, comme toujours, on en parlait pour les contrôleurs, Steam et Valve sont très orientés vers la communauté et visiblement, cette version de Source inclut énormément d'outils et de fonctionnalités pour faciliter la participation de la communauté, même au développement, ce qui est une idée intéressante. Et donc, les joueurs pourront participer à la création d'éléments de jeux, comme c'est le cas avec le Steam Marketplace aujourd'hui, où on peut créer des petits contenus ou des niveaux supplémentaires, etc. Et même au développement en partie. C'est une idée qui est intrigante, franchement. Je pense que c'est qu'une des fonctionnalités du moteur, qui est un moteur graphique classique à part ça, mais une fonctionnalité intéressante.
Écoute, bon, c'est bien pour les développeurs. Ensuite, faut voir ce qu'ils vont en faire. Mais j'imagine que c'est de toute façon c'est une bonne nouvelle pour eux d'avoir ce genre de moteur gratuitement.
En plus, c'est pas les seuls. Je sais pas si Source 1 était payant, à vrai dire, je me souviens plus. Mais aujourd'hui, ils vont avoir un choix invraisemblable puisque Epic a annoncé que leur moteur Unreal Engine 4 serait gratuit à télécharger et c'était déjà le cas. Enfin, ils avaient déjà le moteur Unreal Engine 4 qui était avec un abonnement très bon marché de $30 par mois. Mais là, il serait totalement gratuit avec des royalties de 5% si vous faites plus de $3000 par trimestre. Et en plus, ils remboursent les gens qui avaient déjà payé une partie qui avaient déjà payé un abonnement pendant quelques mois. Donc, le moteur devient complètement gratuit avec un système de royalties. Et Unity 5 a annoncé qu'ils avaient une version gratuite aussi, Unity Personal, qui n'inclut pas les services avancés, mais qui reste gratuit si vous faites moins de $100 000 par an. Et il y a une version pro qui a les services avancés, qui coûte $75 par mois, ce qui est quand même raisonnable, ou $1,500 en tout. Et il n'y a pas de royalties, là, par contre. Il n'y a pas de pourcentage à payer, quel que soit votre revenu. Dans l'ensemble, ça veut dire que c'est le bonheur pour les développeurs indépendants. Ça réduit encore les frais qu'il y a pour le développement. Et
ça enlève les barrières à l'entrée, en fait, qui sont en général assez importantes sur ce genre de produits. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Par contre, finalement, il faut voir aussi, enfin, moi, j'ai aucune idée de combien ça coûte, par exemple, aujourd'hui ou avant que ce soit gratuit, par exemple, de développer quelque chose avec l'Unreal Engine 4. Peut-être que c'est plus cher qu'avant, peut-être que c'est moins cher. Enfin, là, j'en sais rien. Ouais, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les petits nouveaux.
Le moteur en lui-même, tu veux dire, il coûtait $30 par mois, ce qui n'était pas très cher, plus les royalties. Mais...
Ouais.
C'était, disons que ça n'allait pas vous ruiner non plus. Donc, c'est sûr, c'est mieux qu'il soit gratuit. Mais encore plus que ça, les moteurs sont incroyables dans leur puissance. Et c'est marrant parce qu'il y a des développeurs qui développent eux-mêmes leurs outils de création. Et évidemment, il y a plein de gens qui font la comparaison avec n'importe quel artisan. Quand vous allez, je ne sais pas si vous travaillez le bois, si vous allez créer une chaise, vous n'allez pas fabriquer vos propres marteaux et burins et Dieu sait quoi pour sculpter votre bois. Et là, c'est un petit peu la même réflexion. C'est des outils incroyablement puissants qui permettent aux gens de mettre à profit leur créativité plutôt que uniquement leur capacité technique, que certains n'ont pas d'ailleurs. Évidemment, ça resterait technique, hein, l'utilisation de ce genre de moteur, mais c'est une super nouvelle pour les indépendants qui sont en train de devenir une vraie, vraie force depuis ces 5 dernières années. Sur PC, bien sûr, et sur les consoles aussi, là, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Même si, bon, encore une fois, $30 ou $75 par mois, c'était pas la fin du monde. Mais pour un vrai indépendant, c'est là que ça change, je pense.
Exactement. Et je pense que surtout pour les tout petits nouveaux qui sortent d'université, qui sont fauchés, ouais, et qui veulent se lancer là-dedans, enfin, c'est génial, quoi. C'est fantastique.
Et vous pouvez le télécharger n'importe quand. Même quand vous êtes encore à l'université, vous le téléchargez, vous commencez à jouer avec, voyez ce que vous pouvez faire.
Et dès la fin de l'université, hop, millionnaire. Et on en parle plus.
Exactement, comme ils avaient fait avec Portal, racheté par Valve.
Voilà, exactement.
Enfin, l'équipe embauchée par Valve. Bon, passons à l'autre gros morceau, en dehors des Steam Machines, le Steam VR pour Virtual Reality. HTC a annoncé au Mobile World Congress son casque de réalité virtuelle en partenariat avec Valve, qui s'appelle le Vive. Je crois que c'est Vive. C'est un casque de réalité virtuelle. Alors, le système est particulier. Je vais vous l'écrire rapidement. Il y a en gros un casque de réalité virtuelle comparable à celui de Oculus, hein, le casque de l'Oculus, avec en plus deux éléments importants. D'une part, des stations, des base stations, des stations que vous posez dans votre pièce qui vont repérer votre position, en tout cas la position du casque, donc pouvoir vous situer dans l'espace. Et d'autre part, des manettes spécialement conçues pour cette utilisation qui sont des sortes de... Vous vous souvenez des PlayStation Move, des sortes de... des grosses... comment décrire ça, tiens ?
C'est peut-être des, comme deux Wiimote, en fait.
C'est ça, ouais, exactement. Un petit peu comme deux Wiimote, avec des gâchettes et des boutons un petit peu partout, qui, elles aussi, sont repérées par les base stations, donc qui vous permettent de voir vos mains dans l'univers virtuel. Et donc, ça vous place, vous, dans une pièce dans laquelle vous pouvez bouger comme vous voulez. Évidemment, il faut avoir un peu de place. Et vous pouvez contrôler les choses de manière très tactile. En tout cas, c'est ce que disaient les gens qui l'ont essayé. Des impressions sur ce nouveau système de VR? Il semble que tout le monde en sort un aujourd'hui. Il y en a un nouveau par jour, mais...
Voilà, ouais, je pense qu'il y en a un nouveau par jour. Pour moi, le souci, pour l'instant, des deux systèmes de VR, c'est génial, hein, ça fait rêver. Tu te dis, ouais, peut-être que dans 10 ans, ça va être fantastique et tout. Bon, aujourd'hui, même si j'avais une fortune à dépenser, je suis pas sûr que j'achèterais ça, quoi.
C'est vrai? Même pas pour essayer, si ça coûtait 200 euros?
Écoute, premièrement, il faut la place. Donc à voir, mais par exemple chez toi, je pense que c'est un truc à se tuer. Mais en plus,
tout cas, rentrer dans les meubles toutes les deux secondes.
Exactement. Ouais. Et en plus, il faut voir ce qui, enfin, comment ça va gérer les jeux qui existent déjà et ce que ça va apporter en plus. Donc c'est super sympa. J'ai un peu peur que ce soit le genre de gadget où parce qu'il n'y a pas d'application dédiée pour l'instant qui apporte vraiment un gros plus, ça soit amusant une demi-heure, quoi. Un peu comme l'Oculus Rift, en fait.
Il y a des gens qui sont en train de hurler dans leurs écouteurs, des fans de la réalité virtuelle ou de l'idée de la réalité virtuelle.
Ah non, mais l'idée est géniale, hein, je critique pas du tout l'idée. Ouais. L'idée est fantastique et ça fait rêver. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que l'intérêt d'en prendre un demain, là, ce soit encore vraiment une très très bonne idée. À terme, peut-être que dans 5 ans, ce sera bien. Mais pour l'instant, c'est un peu, bah, par exemple, comme acheter une télé 3D, qu'on aime ou pas, acheter une télé 3D quand ça venait de sortir, ça n'avait aucun intérêt puisqu'il y avait rien qui soit, il y avait pas de contenu en fait. Voilà.
Bah, disons que là, le contenu est peut-être un peu plus facile à créer parce que les jeux sont déjà développés en 3D, on peut les adapter en partie au nouveau modèle réalité virtuelle, mais il y a une chose très intéressante qui a été dite à propos du projet Morpheus de Sony, qui est le casque de réalité virtuelle de Sony, qui devrait sortir, d'ailleurs, là aussi on a eu des grosses annonces, qui devrait sortir dans la première moitié de 2016. Les casques de réalité virtuelle devraient être disponibles cet été ou ce printemps plutôt en version développeur. Et là aussi, à la fin de l'année, en version consommateur. Donc, pour Valve, les choses vont arriver assez vite. Donc, on y est presque, on arrive à la fin de l'année. Pour Sony, c'est le début de l'année prochaine, 2016, première moitié de 2016. Et donc, Morpheus aura un bel écran 1920 par 1080, 5,7 pouces, un rafraîchissement de 120 Hz. Donc, c'est très important, le rafraîchissement rapide, pour ne pas avoir de mal de mer. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est pour le module de Valve, on est à 90 images secondes, donc ça devrait aller aussi. Là, on est à 120. Un angle de vision de 100 degrés pour le Morpheus. Ça marche avec la caméra PlayStation et les PS Move. Donc, pareil, des sorts de Wiimote, on en a deux, et ça repère nos mains. Donc, c'est un petit peu, là aussi, une expérience pour une pièce complète, contrairement à l'Oculus, qui, lui, et penser un petit peu plus comme une expérience où on reste assis, plutôt que forcément une expérience, ou pas forcément, mais plutôt penser comme une expérience pour quand on est debout. Évidemment, les deux peuvent faire les deux, hein, mais c'est de cette manière qu'il est envisagé. Et c'est vrai que dans le cas donc de Valve et de Morpheus, on a une... On a besoin de place, déjà, c'est la première chose, pour faire la plupart des démos dont ils ont parlé. Mais il y en a qui étaient vraiment intéressantes, quoi. Il y en a une, c'était pour Valve, où on était dans le Hobbit avec Smaug, avec son trésor, en fait, dans
la montagne des nains,
voilà,
quoi,
la montagne des nains, comment elle s'appelle. Voilà, je suis sûr que les auditeurs nous corrigeront. La forteresse des nains. Et on rentrait, on marchait autour, on marchait sur le trésor de Smaug. Et puis, au bout de, on pouvait attraper les pièces grâce à ces manettes un petit peu particulières, les triturer un petit peu. Et puis, à un moment, il y a Smaug qui arrivait et qui commençait à crier. On était vraiment dans cet univers. Ça, c'est enthousiasmant. Et qui commence à parler, à dire les trucs, et donc on est plongé là-dedans. C'était Weta Digital qui avait créé la démo. Il y en avait une où il y avait une sorte de FPS et on devait prendre chargeurs et recharger nos machines, enfin nos armes, et se planquer derrière le bureau pour se planquer dans le jeu et puis se lever et tirer. Enfin, c'est vraiment l'immersion. Au-delà même de la question de est-ce que c'est possible avec la place, c'est encore une fois un petit peu comme le motion gaming avec Kinect et les Wii. J'ai pas envie de faire ça pendant une heure et demie quand je joue à des jeux vidéo, quoi. 10 minutes, ça va, mais au bout d'un moment...
Tu te souviens de ces jeux d'arcade qu'il y avait au Japon, genre de pistolet ou de boxe, où t'avais des capteurs, en fait, et il fallait bouger,
okay,
taper,
jouait ensemble.
C'est sympa, mais c'est fatigant, hein. Alors, c'est une super méthode pour faire du sport un peu chez soi, en restant quand même geek jusqu'au bout, mais Mais bon, disons que tu peux pas faire ça 8 heures par jour.
C'est sûr. Mais vraiment, au bout de 10 minutes, on est crevé à faire ces trucs-là. Donc, je suis un petit peu circonspect. Moi, je dirais que les versions, enfin, les jeux où on sera simplement à son bureau ou juste debout sans devoir gesticuler comme un singe seront a priori plus gamer et plus viables sur le long terme.
Déjà, ce qu'il faut voir, enfin, ce que j'attends, moi, c'est de voir vraiment les premiers jeux exclusifs qui vont sortir pour ces systèmes-là.
Ouais.
Parce que c'est sûr que si t'adaptes, je sais pas, le dernier Call of Duty là-dessus, ça va sans doute être très sympa, mais tu vois, les sensations vont pas changer fondamentalement énormément par rapport à la version de base.
Moi, j'attends surtout les jeux d'exploration spatiale, genre Elite Dangerous ou Star Citizen, tu vois, ce genre de truc, où fonctionnellement, c'est cohérent d'avoir la tête qui bouge indépendamment du contrôle de l'appareil dans lequel on est.
Ouais,
Et
c'est
là, ça
sûr.
peut être vraiment immersif et intéressant.
Surtout si c'est réaliste et qu'il faut 20 minutes pour passer d'une planète à une autre.
Ouais, bon,
Ça va
ça,
être
c'est pas
génial.
réaliste, mais si tu veux dire
Oui.
s'il faut 8
Ah
ans
bah
pour
s'il faut
passer d'une planète à
850
une
ans pour passer d'un système à un autre, c'est encore moins bien. C'est un peu long,
autre.
hein. Attention aux torticolis.
Ouais, exactement. Une autre remarque sur Morpheus, justement, et sur. J'ai trouvé le commentaire d'un développeur sur Reddit, qui était vraiment, vraiment intéressant, qui expliquait pourquoi, à son sens, Morpheus avait très peu de chances de devenir un système de vendre beaucoup, ou au moins d'avoir le soutien des développeurs. C'était vraiment intéressant, et je vais vous raconter son analyse. Il disait que les consoles qu'on a aujourd'hui sont, comme je le disais tout à l'heure.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Des PC moyennement puissants ou puissants moyen plus d'il y a 2 ans. Et ils sont déjà en train de les pousser dans leur dernier retranchement, ou pas vraiment dans leur dernier, mais ils sont en train de les pousser à fond pour essayer d'avoir des images vraiment belles sur PlayStation, puisque c'est de la PlayStation qu'on parle. Et le problème d'un casque de réalité virtuelle, c'est qu'il faut afficher chaque image 2 fois. Il faut calculer chaque image 2 fois pour l'œil droit et l'œil gauche. Donc ça veut dire que ça divise presque la puissance de calcul par 2. Sur PC, c'est pas un problème, parce que vous dites, vous faites votre jeu, vous adaptez un jeu existant, et vous dites, bon, bah, celui-là, il va falloir un PC méga puissant pour le faire tourner en réalité virtuelle, vous mettez un autocollant dessus, et basta, ça y est, le problème est réglé. Sur PlayStation, ou sur Xbox, vous pouvez pas faire ça. La machine, elle a une puissance fixe, et c'est terminé. Donc, si vous adaptez le jeu que vous avez déjà, vous vous dites, ok, on va faire les choses simples. On va prendre un jeu qu'on a déjà, on va dédoubler l'image, et ben il va pas tourner sur votre console, parce qu'il faudra beaucoup plus de puissance de calcul. À ce moment, ça veut dire qu'il faut commencer à redévelopper un petit peu le jeu, en partie, pour adapter le jeu et les images, la qualité graphique, à la machine que vous utilisez. Et à ce moment-là, ça pose un problème, c'est que ça demande beaucoup de temps de développement, et on arrive dans une situation où ce n'est pas tous les utilisateurs de PlayStation 4 qui auront Morpheus. C'est un accessoire en plus qu'ils doivent acheter. Et donc, le parc installé sera limité. Donc, les motivations pour les développeurs de développer spécifiquement pour seront limitées aussi. Et c'est l'éternelle histoire du poisson qui se mord la queue. S'il n'y a pas beaucoup de jeux, eh ben, les machines ne se vendent pas. Et s'il n'y a pas beaucoup de machines sur le marché, il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc, c'est vraiment une analyse intéressante. Je ne suis pas certain qu'elle soit exacte à 100% non plus. Ça se trouve, il y a des méthodes pour faire des calculs qui ne soient pas si gourmands en dédoublant l'image. Si ça se trouve, Sony va mettre des jeux tellement incroyables à la sortie que tout le monde va en acheter et qu'il y aura un parc installé de 5 millions de Morpheus sur les 20 millions de PlayStation 4 déjà vendus au bout de... de 3 semaines, surtout qu'il va sortir que dans 1 an. Donc, ça se trouve, on sera à 30 millions de machines d'ici là. Donc, bon, mais c'était une analyse intéressante, j'ai trouvé. La différence, encore une fois, entre les consoles et les PC.
Le souci, en fait, que je vois là-dedans, c'est la multiplication, en fait, de ces casques. Ce qui fait, à mon avis, ce qui rajoute une couche de complexité pour un développeur, en fait, qui va vouloir lancer tel ou tel jeu. Il va devoir... le faire pour la version Sony, le faire pour la version Valve HTC, le faire pour Oculus Rift, avec peut-être des différences notables en termes de développement d'une machine à l'autre. Et le souci en plus, c'est que finalement, si tu l'achètes pour ta PlayStation 4, t'es coincé dessus, donc le jour où t'auras envie de le connecter sur ton PC... parce que tout le monde a un PC de nos jours, parce qu'il y a un jeu sympa qui n'est pas disponible sur PlayStation, bah t'es coincé, tu pourras pas l'essayer. Et moi, ce que j'aimerais voir à terme, c'est plutôt une solution qui soit neutre, qui fonctionne sur toutes les machines, et qu'on puisse prendre en fait d'une bécane à l'autre.
Bah, je crois que c'est effectivement le PC et c'est tout. Voilà. Et donc, a priori, soit la machine de Valve, soit l'Oculus. Mais c'est sûr que le Morpheus, c'est pas demain qu'on va pouvoir le brancher sur un PC. Par contre, on a l'avantage d'une solution tout en un simplifiée. Pour le développement, c'est compliqué parce que chacun a son interface différente. Et quand je parle d'interface, je parle des manettes. Elles sont quand même différentes pour toutes ces machines. Le problème que je vois en plus pour le Morpheus, c'est que oui, il faut acheter la machine elle-même, mais il faut aussi avoir une PlayStation Caméra et il faut avoir 2 PlayStation Move. Ça commence à faire cher, hein. Tout ça.
Ouais. Ouais. Surtout qu'il faut les trouver, les PlayStation Move aujourd'hui. Hein.
Oh, je pense qu'ils en ressortiront.
Mais oui, ils en ressortiront spéciales. Une version améliorée, une version 2.0.
C'est ça.
Mais bon.
Mais je pense vraiment que l'Oculus VR a le plus de chance dans toute cette histoire pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant. Et Samsung a aussi annoncé que il y aurait une nouvelle version du Gear VR pour son Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge, qui sont en fait une déclinaison du Oculus. Donc, on reste dans le même type de machine. Et enfin, Microsoft a parlé un petit peu de sa Xbox et du fait qu'ils étaient en train de penser à des expériences de jeu pour le HoloLens. Donc là, on parle de réalité augmentée, qui moi me paraît beaucoup moins crédible pour toutes les raisons que j'ai détaillées dans le rendez-vous tech où on parlait de ce sujet. Je vais pas refaire tout le débat ici, mais à mon sens, il y a des problèmes d'interface dans le monde réel et de lag et de tout ce genre de choses pour vraiment que les choses soient stables. Mais bon, on verra, hein, peut-être qu'ils me prouveront que j'ai tort. Et puis surtout, ils ont ouvert le développement sur Xbox, où ils vont ouvrir très bientôt cet été, entre cet automne, ce printemps et cet été, le développement pour Xbox à tous les développeurs, là encore, sans avoir besoin d'avoir un kit de développement spécifique, cher, compliqué à avoir. Tout le monde pourra développer pour Xbox One très facilement, et là encore, c'est une bonne nouvelle.
Écoute, le maximum de compétition, le mieux c'est en général de toute façon pour le marché. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. À voir ensuite comment ça va, j'espère, relancer la Xbox One.
C'est l'autre grande question auquel on n'aura pas forcément une réponse tout de suite. D'une manière générale, je pense que la réalité virtuelle aura, pour ceux qui attendent, enfin, on pourra les acheter. Ces machines d'ici la fin de l'année, à mon sens, comme tu le disais, je pense pas qu'il faudra attendre 5 ans pour avoir des vraies expériences, mais je pense que ça sera 2016 qui sera l'année du jugement pour la réalité virtuelle. On aura suffisamment de machines et suffisamment de compétition et suffisamment de développement d'ici à la fin 2016 pour pouvoir juger vraiment de ce que donne la réalité virtuelle. Ça sera pas 2015.
Je te donne rendez-vous fin 2016 alors, ouais. Et on en reparlera, on verra, j'espère. Hein. Franchement, c'est le truc qui fait rêver de toute façon. Hein. Moi, je me souviens des premières expériences de réalité virtuelle sur des vieilles machines d'arcade il y a 15 ou 20 ans. Déjà à l'époque c'était fantastique alors que c'était tout laid. Donc maintenant j'ai hâte d'essayer ça. Je pense que ça peut effectivement donner un coup de fouet et renouveler vraiment en fond l'industrie du jeu vidéo.
Ouais, c'est sûr. Bon, on va continuer avec des annonces. Là, on a fini pour le matériel. C'était un petit peu touffu. Quelques annonces de même pas des annonces, des conférences qui ont été données, qui m'ont paru intéressantes, que j'ai notées. Il y a souvent des tendances qu'on note chez les développeurs à la Game Developers Conference, forcément. C'est une conférence très particulière parce que c'est vraiment la conférence de l'industrie. On a des développeurs qui parlent à des développeurs et c'est pas du tout la même ambiance qu'un truc comme l'E3 ou la Gamescom ou la Paris Games Week, ce genre de choses, qui sont des événements vraiment tournés vers le public, des événements marketing. Là, c'est vraiment les développeurs qui parlent de leur industrie, de la manière dont elle évolue, et on a souvent des indications sur ce qui les préoccupe. On avait par exemple le mobile les années précédentes, la monétisation les années d'avant, etc. En l'occurrence, ils ont parlé beaucoup de la manière dont il gère la communauté. C'était l'un des sujets dont beaucoup de gens parlaient. Évidemment, on pense à Gamergate et les conséquences que ça a eu sur la communauté et l'image des jeux vidéo en général. Mais c'était vraiment une préoccupation importante dans leur discussion. On avait aussi le fait qu'ils préfèrent très largement Steam et les PC en général comme plateforme. C'était intéressant, mais c'est pas si surprenant que ça finalement, parce que ça leur laisse le plus de liberté. Et une autre chose intéressante, là encore par rapport à cette question de la communauté, c'était que pour eux, au-delà du game design, qui est la chose la plus importante dans l'industrie, la deuxième chose la plus importante dans l'industrie, c'était la représentation de la diversité dans les jeux, dans le contenu des jeux, qui était considéré comme quelque chose de vraiment important pour, je crois, 65% d'entre eux. Donc, le message est passé, je pense. Les choses sont en train d'évoluer. C'est une très bonne chose, à mon sens. Et on en verra les conséquences dans les années à venir, je pense. En tout cas, je l'espère. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est beaucoup plus intéressant pour eux que la question de la monétisation de leur jeu. La question de trouver des meilleurs moyens de monétiser leur jeu. Alors évidemment, on parle des développeurs, des artistes, mais c'est marrant de voir la séparation très nette qu'il y a entre les développeurs et peut-être les gens, les dirigeants de ce genre d'entreprise, pour certaines en tout cas, qui sont préoccupés par la monétisation plus qu'autre chose. À vrai dire, je caricature un peu parce que c'est pas vrai qu'ils sont... généralement, c'est pas blanc ou noir, c'est pas juste la monétisation ou juste le game design, c'est souvent les deux qui sont importants parce que sans l'un, l'autre ne peut pas vraiment exister. Et puis une autre chose que j'ai notée et qui à mon sens surprendra beaucoup Dani, qui a le sang maléfique de gamer qui coule dans ses veines, c'est que là encore, selon des études qui ont été faites auprès des développeurs et des expériences de jeu, il semblerait que contrairement aux idées reçues, 95% des gens qui jouent à des jeux vidéo vont vers les options, quand on a l'option de choisir d'être bon ou mauvais, gentil ou méchant, 95% des gens vont plutôt vers le choix gentil dans les jeux vidéo.
Ah, les jeunes de nos jours, plus aucun respect pour les valeurs traditionnelles. Hein. 95%, mais ils sont fous.
Je pense que c'était surtout pour Infamous, qui est un jeu où c'est l'un des quelques jeux où on a très clairement des choix bons ou méchants. Est-ce que c'est ton cas, toi ? Est-ce que tu vas vers les trucs ? Parce que moi, on rigole souvent, mais je me dis que tu fais que les trucs de saloperie dans les jeux, non ?
Alors en fait, ça dépend des jeux. En fait, les jeux fun, tu vois, type Infamous, en général, j'irai plutôt là où les pouvoirs les plus intéressants me portent. Tu vois, le gros bill que je suis. Hein. Il y a aucun doute là-dessus. Balancer de l'électricité ou machin et tout, plutôt que de soigner les gens, c'est quand même plus fun. Mais si tu les jeux un peu plus où t'es plus impliqué dans le développement de tes personnages, par exemple, moi, je pense vraiment au Walking Dead ou Wolf Among Us, par exemple. J'ai adoré ces jeux et je me suis vraiment vraiment mis à fond dedans. Les choix étaient plus nuancés, mais comme pour tout le monde en fait. Le truc en fait, c'est que ça me semble beaucoup 95%, parce que finalement, c'est difficile de dire bon ou mauvais, tu vois. En général, nos choix dans la vie sont plutôt gris, tu vois. Je pense que les gens vont être à 70% prendre des choix bons. Des fois, ils vont se dire ah ouais, lui le salaud, il mérite de payer. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais je pense que voilà, moi mes choix en général dans ce genre de jeu-là sont vraiment plus nuancés et gris. Donc il y a aucun intérêt à choisir d'être très fort ou machin parce que tu peux pas. Donc là, le choix est vraiment dépendant de ce que tu ressens au moment où ça se passe.
C'est marrant parce que c'est exactement ce que
tu disais.
Moi je suis plutôt un gentil, donc j'ai tendance à avoir du mal à faire les choix de
et
méchants.
Et t'as joué à Shadow of Mordor.
Oui, bon, mais non, mais c'est des orques qu'on dépèce, donc.
Alors ça va si c'est des orques.
Oui, bah oui, exactement. Ils sont, tu vois, tu te balades sur les toits et tu les entends, ils disent « Ah, moi, ce que j'aime, c'est dépecer les humains lentement pendant qu'ils sont vivants et j'écoute leurs cris de terreur et d'horreur. » Donc là, forcément, t'as un petit peu moins de scrupules à lui arracher la tête, tu vois.
Écoute, je vais justifier l'association pour la défense des orques, c'est scandaleux ce que tu dis. Ils ont au moins autant de droits que toi de dépecer et d'arracher la tête de leurs adversaires. Voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Mais donc c'est marrant parce que ce que disait Amanda Lange qui est chez Microsoft et qui parlait de cette question, c'est que effectivement c'est exactement ce que tu disais, quand il y a un contexte et quand on explique ou quand on met des enjeux dans ces choix moraux, évidemment les choses sont un petit peu différentes. Mais là où c'est inintéressant, ou là où ça n'a pas d'importance, plutôt, restons un peu neutres, c'est quand il n'y a pas d'enjeu, quand on te dit simplement bah là vous êtes soit gentil soit méchant, avec justement dans Infamous le choix bleu et le choix rouge. Bleu c'est gentil, rouge c'est méchant, mais finalement ça revient un petit peu au même. Là effectivement les gens vont pas forcément hésiter très longtemps ou voilà, ça a beaucoup moins d'importance. Donc le contexte est important et peut-être que ça va aider à développer les jeux de manière un petit peu plus intelligente quand on a ce type de choix moraux à l'avenir. C'était quelque chose, mais c'était très surprenant pour moi que les choses soient aussi orientées vers le gentil finalement, parce que tu te dis si ça a ça a aucune importance, tu vas le faire juste pour le fun, pour voir ce que ça donne. Et je me disais que moi j'étais le seul à ne pas aller vers le méchant grimaçant, ouais, justement
si
dans Infamous
si
pour le
principe. Tu dois te rattraper 10 heures ou 15 heures de play dans ta sauvegarde parce que t'auras testé le choix méchant, mais que finalement ouais. T'auras envie de voilà, c'est ouais, non, je comprends. Sûr, ouais. Mais en plus vraiment quand t'es impliqué, je pense que ça, enfin tu te sens vraiment dans le personnage, et je pense que la plupart d'entre nous de toute façon, enfin on a ouais. quand même un fond relativement bon, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai. J'espère, j'espère pour l'avenir du monde. No Man's Sky, une petite news intéressante sur ce sujet. Il y avait la conférence où il parlait de la construction de No Man's Sky, donc jeu d'exploration spatiale méga hypé sur PlayStation 4 à sa sortie, quand il sortira peut-être à la fin de l'année. C'est un truc marrant, c'est que leur univers est tellement grand et généré de manière procédurale, qu'ils ont été obligés d'envoyer des robots virtuels par milliers dans l'espace pour explorer leur univers pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, en fait. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il y a, les résultats de leur génération procédurale, et si c'est cohérent ou pas, s'il y a trop de trucs de ce type-là ou pas assez de trucs de ce type-là. Donc, ils ont été obligés d'envoyer des robots virtuels explorer virtuellement leur espace virtuel pour vérifier qu'il était comme ils le voulaient. C'est marrant comme
un... C'est marrant. Ça fait un peu de buzz maintenant. Bon, ensuite, je ne sais pas forcément parce que le jeu est si énorme que ça que ce sera une merveille ou...
Ah bah non, bien sûr.
Mais bon, à voir. C'est amusant en tout cas comme news, hein, mais bon,
bah
c'est
ça. C'est
mignonne.
C'est juste qu'en fait, t'as simplement pas de moyen de visualiser l'univers. Et c'est le cas pour celui-là, c'est le cas pour tous les univers comme ça si grands, hein, mais t'as pas de moyen. Imagine, il y a des trillions de systèmes solaires. Tu peux pas aller à la main les regarder et regarder chacun d'entre eux, quoi.
Bon, donc, c'est sûr.
Tu peux pas explorer l'univers de ton jeu physiquement, toi, tu peux pas. Donc c'est... Enfin, j'ai trouvé ça marrant.
C'est marrant, ouais.
Et enfin, The Witcher 3, dont on parlait tout à l'heure, il y a une vidéo de gameplay à la GDC. C'est surtout les graphiques qui sont tellement beaux. Moi, je suis hyper impatient de voir ce jeu. Surtout que... Je sais pas si t'as essayé, toi, comment il s'appelle, Dragon Age Inquisition.
Aïe, oui, j'ai passé 30 heures dessus, je me suis forcé. Hein.
30 heures ?
Ouais.
Ouf.
J'ai essayé, je me suis dit, c'est pas possible. Écoute, si c'est possible, il m'a vraiment pas plu. Hein. C'est bon. Dommage parce que le premier était merveilleux, hein, il était fantastique.
Ouais. Bah, il y a des gens qui ont aimé le 3 aussi, hein, Inquisition, mais moi, je l'ai enfin ressorti après quelques mois. Et j'avoue que j'ai passé que 7 heures dessus. Et j'avoue que j'ai été vraiment déçu aussi parce que je l'ai trouvé très. Comment dire, j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu où les développeurs avaient pris une liste de trucs qu'ils devaient faire et ils avaient rempli la liste, quoi. Alors, est-ce qu'on a ça? Oui, on a ça. Est-ce qu'on a ça? Oui, on l'a. Est-ce qu'on a ça? Oui, on l'a. Et enfin, même au niveau du design, il y a des problèmes, quoi. On m'envoie dans une zone au début pour essayer d'accomplir une mission spécifique, de sauver quelqu'un. J'arrive, je fais quelques missions et puis... Je me dis, bon, bah, je dois la sauver, je dois aller dans cette zone. Et puis, j'arrive plus, quoi. Il y a une mission que je dois faire pour la sauver. Je fais les 5 premiers éléments de la mission. Et le 6e, enfin, je fais les 5 premiers sans trop de difficultés. Le 6e, impossible. Je me fais massacrer sans aucune indication de pourquoi. Alors, je me dis, bon, ok, il faut que j'ai un peu plus d'XP. Je vais aller tuer des machins, là, chasser des chèvres dans telle zone, alors que je suis l'Inquisition, tu vois. Je vais aller chasser des chèvres dans la zone à côté parce que c'est une des quêtes que je dois faire. Et là, j'arrive, je vois une chèvre, je lui tire dessus avec un arc. Et il y a mon gros guerrier qui arrive dessus, qui la massacre avec son épée. Je me dis, bon, bah, c'est la chèvre, voilà, la pauvre. Et là, il fait, parce que c'est généré aléatoirement, un cri de victoire, genre, prends ça, mécréant! Tu sais, c'est de... Mais qu'est-ce que tu fous, c'est une chèvre, quoi. Enfin,
ah bah elle était dangereuse, hein. Elle a mis un grand dans le groupe. Bon, en fait, ce que je reproche à ce jeu, il y a deux choses en fait. Premièrement, c'est que c'est une sorte de MMO en fait. Ils ont repris tous les éléments du MMO, mais pas ceux qui étaient les plus fun ou excitants. Donc t'as plein de quêtes partout. T'as va chercher cet anneau que mon mari a perdu quand il faisait un tour de garde, ou va tuer 10 chèvres parce que on a besoin de fourrure pour les gens du village et de viande. Bon, ok, pas super excitant. Et la deuxième chose en fait qui m'embête, c'est surtout, enfin, ce qui faisait l'intérêt du premier, c'était la profondeur des dialogues, la richesse des personnages et les implications de tes choix dans le jeu. Et en fin de compte, là, les dialogues sont vraiment pas intéressants. J'en ai passé beaucoup parce que il y a du dialogue pour faire du dialogue. Alors il y a énormément de dialogues, hein. Je pense que si t'écoutes tout dans le jeu et que tu fais tout bien comme il faut et tout, le jeu il doit faire 100 à 150 heures de play. Mais c'est vraiment, c'est beaucoup moins impliquant que le premier. Et c'est très dommage.
Ouais, moi, à vrai dire, il y a ça un petit peu. Il y a aussi le fait que, on m'a pas dit de. En fait, finalement, ce qu'il fallait, c'était ressortir de là où j'étais, aller dans une autre zone, mais personne ne l'avait indiqué.
Personne te le dit, non.
Mais franchement, si j'avais pas posé la question sur Twitter, j'aurais jamais su. Jamais. Et c'est.
Moi, j'ai nettoyé la première zone, justement. Je me suis acharné dessus et je l'ai nettoyé. Parce que voilà. Et après, effectivement. Parce que c'était pas très clair, il faut revenir dans ta salle du trône,
de guerre,
t'as
ouais,
la
ouais.
carte, machin, ta salle de guerre, et il faut changer de zone régulièrement, lancer des quêtes annexes, secondaires, lancer des... Ok, c'est sympa, mais c'est assez mal indiqué, et bon, ça change rien au fait que, pour moi, vraiment, le plaisir qu'il y avait, et je trouve que Mass Effect, par exemple, Mass Effect 1, 2 ou 3, c'était vachement plus fun, et les parties, justement, dialogue... et interaction avec les autres personnages de ton groupe et sont vachement plus intéressantes, alors que c'est un third-person shooter plutôt que Dragon Age 2, Inquisition, alors que finalement c'est censé être un jeu de rôle, donc.
Ouais. C'est vrai
c'est
que c'est un peu frustrant. Et je comprends que le jeu, qu'il y ait des gens qui l'aiment, hein, il y a des, c'est quand même pour un jeu de rôle, si t'es fan de ce type de jeu, je suis sûr qu'il t'amène ce que tu attends de ce type de jeu, même si dans l'ensemble, il y a pas il y a ces problèmes qui nous ont embêtés. Mais moi, je trouve que c'est vraiment la réflexion que ça m'a amené, c'est que tout le monde, il y a énormément de gens qui lui ont donné le titre de jeu de l'année l'année dernière. Et moi, j'ai trouvé que, je sais plus si j'ai volé cette expression à quelqu'un ou si c'est moi qui y ai pensé, mais c'est vraiment un exemple du fait que parfois, pour être le jeu de l'année, on n'a pas besoin d'être le meilleur jeu pour tout le monde, le jeu préféré de tout le monde, mais on a juste besoin d'être le jeu que les gens détestent le moins. Et c'est vrai que il remplit les prérequis du jeu AAA classique. Super bien, quoi. Alors, est-ce qu'il y a ça? Oui, il y a ça. Est-ce qu'il y a ça? Oui, il y a ça. Il y a du combat en temps réel, il y a du combat en machin, il y a des quêtes partout, il y a un aspect stratégique, il y a du multiplayer, il y a du machin. Ok, bon, mais au final... Alors, justement, moi, le jeu que j'ai redécouvert et qui, à mon sens, qui est loin d'être parfait aussi, hein, très très loin d'être parfait, mais qui m'a procuré beaucoup plus de plaisir, c'était Middle-Earth Shadow of Mordor. Là, je l'ai redécouvert il y a une semaine et je l'ai retourné, mais dans tous les sens. C'est vraiment... je l'avais bien aimé quand je l'avais essayé autour de Noël, mais je n'avais pas trop le temps d'y jouer. Là, je l'ai réessayé et je pense que c'est un jeu qui a... Beaucoup de gens en ont parlé, mais qui a pas, qui aurait mérité d'avoir encore plus de jeux de l'année, qui a d'énormes qualités et que j'ai vraiment apprécié, quoi. Je ne sais pas si tu y as beaucoup joué, toi, mais...
En fait, je l'ai depuis des mois dans ma liste de jeux Steam, hein, et en lisant tes tweets là ces derniers jours, et quand tu sais, on avait échangé quelques messages, donc je m'y suis remis. Enfin, j'ai commencé en fait le jeu. Il est sympa. J'ai passé peut-être 2 ou 3 heures dessus, donc j'ai pas passé assez de temps pour te dire oui c'est une merveille ou pas. Il est bien fait. Moi, toutes les critiques que j'avais lues dessus étaient sympas. Au niveau de la narration, ça a l'air plutôt intéressant aussi. Et bon, le jeu est très open world, donc c'est assez agréable. On peut pas vraiment le comparer à Dragon Age Inquisition, puisque
c'est plus un jeu d'action,
c'est un sandbox game, en fait c'est un sandbox game plus qu'un vrai RPG, mais il est chouette et sympa. Ça me rappelle en fait beaucoup, et on sent vraiment la griffe, enfin ça me rappelle vraiment les jeux Batman au niveau de c'est quoi déjà Batman Asylum,
oui,
et
Arkham City
Arkham au niveau Asylum, du gameplay, ouais. Et de la jouabilité, c'est vraiment ça. Les combats sont nerveux, sympas.
C'est le même système, oui.
Ouais, exactement le même système. C'est.
Franchement, voilà. Moi,
c'est un bon jeu, je pense.
Je l'ai beaucoup aimé. C'est les meilleurs aspects de Assassin's Creed avec l'aspect furtif mais quand même hyper action, et tu montes sur les toits et tu prépares ta mission, etc. Donc les meilleurs aspects d'Assassin's Creed, mieux réussi même que dans Assassin's Creed, j'ai fini Unity il y a quelques temps aussi. Les meilleurs aspects de Batman, avec le système de combat tellement agréable à faire et qui, au bout du compte, on se sent d'une puissance mais phénoménale. On prend des hordes et des hordes d'orques et on les massacre avec une facilité sans nom. Enfin, même pas une facilité, mais le système reste intéressant. Et puis, ce système de Némésis, où on va aller chasser les gardes du corps qui ont été créés dynamiquement par rapport à nos actions et ceux qui nous ont battus ou pas. Chasser les gardes du corps des chefs de guerre qu'on veut tuer ou qu'on veut... c'est hyper bien fait.
J'ai trouvé ça très original d'ailleurs, hein, d'avoir genre tel orc défie le capitaine machin de Sauron et prend sa place pour devenir Gorgar, le terrible massacreur d'humains. J'ai trouvé ça super sympa et c'est vachement impliquant en fait.
C'est étonnant, hein, ça t'implique vraiment dans ce... Ça, tout le monde en a parlé et tout le monde l'a mis en exergue, mais ça t'implique vraiment dans le truc et c'est hyper intéressant pour la construction de l'histoire qui, à côté de ça, même l'histoire avec le héros et qui est un petit peu légère, c'est sûr, mais le héros et cette raison pour laquelle il peut pas mourir, je l'ai trouvé vachement bien conçu aussi. Si on veut faire que l'histoire, elle se tient. Et en fait, c'est un jeu qui se concentre, il n'y a pas de superflu. Moi, j'ai fait 30 heures de jeu dessus et c'est 30 heures hyper intenses. On peut finir l'histoire principale en une quinzaine d'heures, j'imagine. Mais bref, je le recommande si vous l'avez laissé passer. En plus, je pense qu'il n'est pas très cher. Par contre, je pense qu'il vaut mieux y jouer à la manette qu'au clavier. Mais bon, c'était vraiment ma découverte tardive de l'année. Je l'ai beaucoup aimé. Bref, et donc The Witcher, super beau, super intéressant.
Est-ce que tu avais joué aux deux?
Un petit peu, mais j'étais pas rentré dedans. J'espère vraiment rentrer dans le troisième. Et
alors,
tout le monde
je l'ai terminé. Moi, les reproches que je lui ferais, et les gens vont hurler, c'est à peu près ce que je fais à Dragon Age Inquisition. En moindre, t'es quand même plus impliqué, c'est plus intéressant. Et la narration du 2 est super sympa au début, je trouve. Mais bon, l'intérêt du jeu, c'est vraiment qu'il est magnifique. J'ai pas été super fan du gameplay. Le 3, je sais pas si je le prendrais. Le 2 était sympa sans plus.
Le 3, visiblement, l'histoire est encore plus bien pensé et il y a plein de quêtes annexes mais qui sont des vraies histoires, un petit peu encore mieux que dans un jeu comme Skyrim où chaque quête annexe n'était pas juste va chercher des pâquerettes parce que j'ai besoin de déclarer mon amour à ma femme, mais encore plus vraiment des histoires complexes où justement on a des choix moraux compliqués qui sont pas faciles à faire et chacune de ces quêtes annexes a une vraie importance, etc., etc. Donc
Il y a quand même dans Witcher 2, il y a une histoire assez complexe et t'as des choix à faire des alliances qui ont un impact en fait sur le déroulement du jeu. Donc ça c'est assez intéressant.
C'est sûr, mais là c'est le cas aussi même pour les quêtes annexes, tu vois.
Ouais, en tout cas, c'est un plus parce qu'effectivement les quêtes annexes Witcher 2 étaient pas, enfin c'était des quêtes annexes quoi. Annexes.
Ouais. Bon, on verra ce que ça donne en mai quand il sortira, mais moi je suis assez impatient et je salive déjà. Bon, je sais pas si on va parler de, allez, très rapidement de Pokémon Shuffle, Pokémon Puzzle Game que j'ai essayé sur Nintendo 3DS pour parler un petit peu de console quand même, et qui est méga free to play. Moi, ça m'a un petit peu fait peur parce que Iwata disait il y a quelques semaines dans une réunion avec les réunions d'actionnaires qu'ils allaient orienter un petit peu leur stratégie vers des jeux moins chers et des jeux adaptés du mobile. Et là, on se dit toujours, un jeu adapté du mobile, ça change le business model parce que sur console, on n'a pas l'habitude d'avoir des modèles type Candy Crush. Et finalement, Pokémon Shuffle, on a un petit peu tout ça. On a l'énergie, la limitation dans les jeux, les gemmes qui vont permettre d'acheter des bonus ou le fait de jouer un petit peu plus. Est-ce que c'est ça la stratégie de Nintendo à long terme quand ils parlent de stratégie mobile? On dit beaucoup qu'il faudrait qu'ils aillent sur les mobiles parce que c'est là que les choses se passent. Peut-être qu'ils se disent on n'a pas besoin d'aller sur les mobiles, on va juste amener les business models des mobiles sur nos consoles 3DS et Wii U. Ça me
Quelle
fait
horreur.
Peur.
Ça me fait peur. Hein. Vas-y, débloque le niveau 2-2 de Super Mario Wii U 3 pour juste 1,99€.
Mais ça encore, tu sais, à la limite, ça me gêne pas tellement. Si tu offres du contenu en plus pour de l'argent, ça me gêne pas.
Rajoute des vies.
C'est ça.
Pour aller le méga pack de vie à 99,99€, c'est une super affaire.
Exactement.
T'as 120 vies au lieu de 80.
Super. Et parce qu'en plus, le problème, c'est que quand tu pars dans ce genre de direction, on le connaît sur mobile, tu corses la difficulté artificiellement pour que les gens soient incités à payer. Alors, il y a des jeux en free-to-play qui sont bien faits, et franchement, je pense pas qu'ils feront ça pour des jeux type Mario ou ce genre de choses, mais...
J'espère pas. En tout cas, ça n'augure rien de bon, et c'est pas forcément le business model que j'aurais apprécié voir débarquer sur console. J'espère que ça va pas suffisamment bien marcher pour qu'ils l'étendent au reste de leur licence.
Ouais. Bon, disons que c'est juste pour Pokémon Shuffle et puis j'espère qu'on peut leur faire confiance. Là, je spécule et je troll même un peu parce que j'exagère, mais. Bon, je pense qu'on peut leur faire confiance pour mettre le gameplay en avant. Et puis mine de rien, Pokémon Shuffle, c'est un bon jeu auquel je peux jouer gratuitement, alors que j'aurais pas forcément pu y jouer s'il était à 20€. Mais bon, c'est à 5€, je l'aurais peut-être payé quand même. Il est vraiment sympa, mais bon, on verra ce que ça donne.
On verra.
Je voulais juste faire une remarque. Bon, une série de petites news en plus, on le disait, Sony a annoncé 20,2 millions de machines vendues dans le monde, ça continue à monter, c'est vraiment intéressant. C'est une performance pour Sony, je le disais il y a deux semaines, on a quand même cette génération de consoles qui se vend 60% de plus que la génération précédente, donc Sony ou Microsoft, je pense que ça va par rapport à leurs prévisions, ils sont plutôt contents, mais Sony annonce des chiffres vraiment impressionnants. The Order qui est sorti, un jeu exclusif sur Sony, a été beaucoup critiqué parce que certains disaient qu'il était trop court, 5 à 6 heures de jeu. Moi je me demande s'il aurait été aussi critiqué si les gens le trouvaient bon même s'il était court. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas apprécié, pas forcément à cause de la durée même si c'est important, mais en même temps après les reviews initiales, il y a beaucoup de gens que j'écoute qui l'ont essayé et qui ont dit franchement, il mérite pas toute cette haine qui a été déversée sur lui quoi. C'est un jeu sympathique. Bon, il est un peu court effectivement, mais il est tellement beau, c'est une expérience sur rail où on suit l'histoire et on joue en third person shooter, mais il est pas mal quoi. Alors, il faut savoir qu'il dure que 6 heures, mais
J'y ai pas joué personnellement, j'attends que tu me le prêtes. Hein. mais globalement,
moi j'y ai pas joué non plus, mais je l'achèterai quand il sera un peu moins cher, je pense.
Globalement, moi de toute façon, ça me dérange pas que le jeu il fasse 5 ou 6 heures si c'est des heures de jeu qui t'apportent du plaisir en fait. Parce que finalement, tu vois, t'as d'un côté par exemple Dragon Age Inquisition qui a 100 plus heures de jeu. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est 100 heures de jeu qui sont aussi intenses que ce que ça aurait pu être si le jeu avait été condensé en 15 ou 20 heures? Je sais pas. Donc moi ça me dérange pas, le principe me dérange pas. Alors effectivement, c'est sûr que ça fait cher. Dépenser 70 euros pour 5 à 6 heures de jeu, mais en contrepartie, si le jeu est bien et qu'il t'apporte beaucoup de plaisir, bah pourquoi pas. Hein.
Moi, je suis assez sur la même longueur d'onde, en fait. Et je pense qu'il y a une question de génération aussi, ou de type de joueur, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dépenser 70 euros dans leur jeu et qui vont se dire, putain, il faut que j'en ai vraiment pour mon argent, c'est le jeu que je vais acheter ce trimestre, et il faut que je puisse y jouer énormément, peut-être que c'est des étudiants, ou des gens qui ont beaucoup de temps, ou qui n'ont pas de famille, ou je sais pas, qui passent énormément de temps sur le jeu, évidemment, 5 heures, ils vont être déçus, mais il y a aussi un autre type de joueurs qui n'ont pas du tout le temps de se consacrer à ces jeux-là et qui apprécient, au contraire, c'est même pas un problème que ça soit 6 heures de jeu, mais qui apprécient ça, qui se disent je vais pouvoir jouer une heure par semaine, une ou deux heures par semaine, qui travaillent peut-être, qui ont un petit peu plus d'argent en plus, donc qui vont se dire ça va être mon jeu du mois, je vais le finir en une ou deux heures par semaine en un mois, ça va faire une bonne expérience distrayante, c'est de l'entertainment et c'est une qualité qui dure que 6 heures, parce qu'ils vont pas pouvoir, s'ils durent 20 ou 30 ou 50 heures, ils vont même juste pas pouvoir le finir, quoi.
Ouais, mais en plus, il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que je pense que c'est plus simple de faire une qualité de narration, une immersion sur une durée relativement courte, entre 5 et 10 heures, plutôt que de dire, voilà, sur 80 heures de play, garder un niveau d'intérêt et une intensité dans un jeu sur une longue durée, c'est quand même assez difficile.
C'est vrai, oui. C'est vrai que l'histoire peut être, est généralement bien mieux menée sur 6 heures ou 10 heures à peu près que s'il faut l'allonger artificiellement sur... Moi, par exemple, j'ai beaucoup apprécié, j'en ai beaucoup parlé, Infamous First Light, parce que justement, il faisait 6 heures, ça avait un début, une fin, c'était bien rythmé. Même au niveau du gameplay, on avait des trucs en plus toutes les 20 minutes, une demi-heure, et ça fonctionnait super bien, quoi, donc...
Bah moi pour faire vieux con, Resident Evil 1, hein, il faisait quoi, entre 5 et 7 heures.
Un peu plus, quand ça reste, non,
il y avait des modes en fait, même où tu pouvais, enfin il y avait des trucs à débloquer où il fallait le terminer en moins de 2h30, je crois. Bon, je l'avais fait, hein, ah oui. Évidemment, dans tous les sens. Et pour moi, ça reste une des expériences de jeu les plus fantastiques que j'ai eues. Alors effectivement, maintenant il est vieux, au niveau de l'histoire, c'est un peu couillon, machin, etc. Mais finalement, voilà, tu peux avoir vraiment une expérience de jeu incroyable en moins de 10 heures sans aucun problème.
Et je pense qu'on revient à la question du départ qui est, est-ce que c'est vraiment qu'il est trop court ou est-ce que c'est voilà. Qu'il n'est pas bon?
Et bah, ça, la réponse quand on ira jouer.
Ouais, exactement.
Mais moi, je dois t'avouer que je ne suis pas trop fan de l'ambiance. Maintenant, quand j'irai jouer, je te donnerai plus de détails là-dessus.
D'accord, bah on verra. En tout cas, il y a des reviews mixtes, enfin même pas mixtes, il y a beaucoup de reviews initiales qui ont dit bah, trop court, trop court, trop court, et d'autres personnes auxquelles je fais confiance qui ont joué et qui se sont dit en fait c'était sympa, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est quand même un bon jeu, peut-être parce qu'ils attendaient quelque chose de pourri effectivement. La PAX arrive avec des annonces pour des jeux Blizzard notamment. On a des élémentaires et des habitants de Blackrock, dont Augur, l'Ardeur, qui est apparu sur le site de Hearthstone, donc enfin sur Facebook et sur le site de Hearthstone. Donc peut-être quelque chose à voir avec le mont Blackrock pour la prochaine extension ou l'aventure de Hearthstone.
J'ai hâte.
Tu joues beaucoup à Hearthstone ?
Ouais, beaucoup, ouais.
D'accord.
C'est le jeu, je pense, auquel je joue le plus, hein, en ce moment.
Ah, je savais pas. Faudra que
je
fasse une partie.
Oh bah écoute, quand tu veux, hein.
T'es quel rang ?
Ça changera de ma frustration des arènes.
T'es quel rang ? Tu joues qu'en arène ?
Non, je fais les deux. J'aime bien, en fait, je joue en classé surtout pour faire les cotis.
Ouais.
Je tourne entre en 7-10 en général.
Oh ah, t'es vachement bon.
Je pense que je pourrais monter plus haut sans problème, c'est juste qu'il faut du temps, quoi.
Ouais. Bon, d'accord, ok.
Mais j'adore, bah, écoute, j'ai toutes les cartes qu'il me faut, j'ai plein de poussière pour la prochaine extension, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. En plus, bah, comme je fais des arènes, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir des paquets, des poussières
gratuit,
et des
ouais.
golds supplémentaires gratuitement, c'est pas trop trop méchant, donc voilà. Juste, il y a tellement d'aléatoires quand tu fais une arène que des fois ça m'énerve.
Tu gagnes combien de combats généralement en arène? à peu près?
Alors, il y a des fois où je me fais ridiculiser. Hein.
Bien sûr, comme tout le
c'est
monde.
C'est rare, mais bon, une ou deux victoires, ça arrive quand même, et c'est super frustrant. Surtout quand tu te dis, ouais, j'ai un bon deck, pas mal, et tu t'es défoncé. Et des fois, bah, t'as un deck merdique, et mon record, c'est 9 ou 10 victoires. Et en général, je fais entre 5 et 7. Hein.
Pas mal, pas mal. Donc, tu rentabilises bien tes arènes.
Oui, oui, oui. Ouais, bah, c'est, elle se paye toute seule. Voilà.
Oui. Est-ce que tu es prêt à racheter des instruments en plastique, Dany?
Ah bah j'en avais tellement envie, mais je suis certain que c'est avec le changement de génération de console, c'est une des raisons qui a fait que.
Oui, c'est possible, c'est possible. Alors, il y a des rumeurs selon lesquelles Activision s'apprêterait à ressusciter la série Guitar Heroes. Et comme on avait entendu des rumeurs selon lesquelles, qui sont en train de se confirmer, selon lesquelles Rock Band serait en train de revenir aussi, il est possible qu'à l'E3, on entende parler de nouveaux jeux de musique. La grande question, c'est est-ce qu'il faudra racheter des instruments? Est-ce que les anciens pourront être adaptés aux nouvelles consoles? Est-ce qu'on pourra garder les chansons qu'on a déjà achetées pour les anciennes
machines? Il faudra tout racheter, tout.
Ouais, c'est très possible. Mais c'est marrant, tu sais, j'écoutais, il y a des gens qui disaient « Ouais, on en a marre des jeux de musique ». C'est passé, ça y est, c'était une mode et c'est passé. Et il y a des gens que j'écoutais, bah, Jeff Kanata et Christian Spicer dans DLC, qui disaient, mais il n'y a pas de raison que les jeux de musique disparaissent. C'est comme les jeux de sport. Ça peut être en fond dans le jeu vidéo. La musique, c'est un truc que tout le monde apprécie. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse. La raison, c'est qu'ils en ont trop fait, en particulier chez Activision. Et donc, les gens en ont eu marre. Mais il n'y a pas de raison que si le rythme est raisonnable, on ne puisse pas continuer à avoir
sûr,
des jeux de musique tout
sûr.
Le temps. Quoi.
Surtout, finalement, les nouvelles chansons sur lesquelles tu as envie de jouer, bah, y en a tout le temps. Hein.
Ben, c'est ça.
Donc, voilà, c'est un business model qui doit être un peu différent de ce qu'il était à l'époque, mais je pense que si on le base plus justement sur le fait de l'acquisition des titres et qu'on évite de changer les instruments toutes les deux semaines parce que finalement c'est toujours sympa de vendre des guitares, bah pourquoi pas. En plus c'est vachement sympa en multi avec des potes dans le salon autour d'une pizza. Voilà, non, c'est
exactement. Bah, c'est, tu sais que moi après y avoir réfléchi au début je me disais bah ça suffit, on en a marre de tout ça. Je me suis dit finalement pourquoi pas. Je crois que je serais prêt à au moins les guitares, peut-être pas la batterie et
ah bah si, pas tout. Micro, moi j'adore la batterie, donc il faudrait que tu me prennes une batterie.
J'y réfléchirai. Bon, les jeux gratuits du Xbox Live Gold et du PlayStation Plus ont été annoncés pour le mois de mars. Et en particulier, c'est intéressant sur Xbox, il y a Tomb Raider, Rayman Legends et Bioshock Infinite. Je ne sais plus lequel c'est sur Xbox 360 et lequel est sur Xbox One. Mais attendez, je vais
vérifier. Je crois que c'est Rayman Legends, en fait, sur Xbox One.
C'est ça, donc bon, qui est sympa.
Ça
ne
nécessite pas forcément la puissance absolue de la Xbox One, mais.
C'est ça.
mais ça reste franchement, un bon jeu.
Sur Xbox 360, Tomb Raider, excellent, excellent jeu. Vraiment un Uncharted-like très, très bien foutu que j'ai adoré. Bioshock Infinite.
Bioshock est très bon aussi.
Donc, si vous avez une Xbox 360, pensez à les downloader, parce que c'est vraiment des bons jeux, quoi. Et sur PlayStation Plus, Mémoire de la Grande Guerre, c'est un peu moins sexy. Mémoire de la Grande Guerre, Abe's Odyssey, Papo Agno, Sherlock Holmes et Oli Oli 2 sur Vita, que je voulais essayer si j'avais pas eu des problèmes avec Patreon, dont je me plains sur le rendez-vous tech. Enfin, des problèmes qui sont dus à ma bêtise, hein. J'ai oublié de compter un épisode du rendez-vous tech dans mon Patreon, donc je me retrouvais avec la moitié de mon salaire ce mois-ci. J'espère que ça va pouvoir être corrigé, normalement ça sera bon, mais c'était la panique ce matin. Bref, j'ai pas essayé Oli Oli 2, mais il est disponible sur Vita. Bon, moins sexy sur PlayStation hein, ce mois-ci.
Moi c'est Abe en fait que je voulais essayer, j'avais adoré l'original en fait, et
c'est
donc
vrai
le remake tout le monde disait qu'il était très sympa. Donc,
tu sais, j'ai jamais vraiment joué à Abe, c'est un jeu de plateforme classique, non?
C'est un Prince of Persia like.
Ah bah peut-être que je vais l'essayer, alors je vais regarder.
L'univers est assez, il est très original et sympa, c'est fun. C'est dur mais c'est fun.
Prince of Persia, les anciens ou les
nouveaux
en 3D?
Oui, tu sais, là où il fallait t'accrocher à la plateforme, il fallait timer le bon moment où tu marchais sur la dalle pour ouvrir la porte sans te faire écraser, etc.
D'accord. Bon, allez, quelques news pour finir. Tomb Raider, le reboot, a finalement été le jeu le plus vendu de la licence, même plus que Tomb Raider 1. Rendez-vous compte, on avait l'impression qu'il s'était pas super bien vendu, mais au final, c'est le plus vendu Tomb Raider, le Tomb Raider le plus vendu de l'histoire. Il a fait 7,5 millions.
Il faut voir aussi qu'il est multiplateforme, donc ça doit aider quand même pas mal.
Bien sûr.
Et plus, c'est un très bon jeu accessoirement.
Oui, et puis il y a plus de consoles qu'à l'époque où Tomb Raider 1 est sorti, ouais. etc. Bien sûr. Mais il n'empêche, on avait l'impression, tu te souviens, quand il est sorti, que ça marchait pas aussi bien que Square Enix ne l'espérait. Mais... Donc 7,5 millions contre 7,1 pour Tomb Raider 1. À l'époque, ça voulait dire beaucoup plus. Le rachat de Minecraft et de Mojang par Microsoft a commencé par un tweet frustré de Notch quand il a dit « Bon, j'en ai marre de toutes ces conneries. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut racheter Minecraft ?» parce qu'il n'arrivait pas à contenter la communauté. Et ça a commencé là, en fait. C'est à partir de là que le président de Mojang a reçu des appels de Microsoft, de EA, de plein de gens en disant « Attendez, est-ce qu'il est sérieux là ? Est-ce qu'il veut vraiment vendre Mojang ?» Et finalement, ça s'est fait à cause du tweet de Notch. C'est... incroyable. Notch, bien sûr, créateur de Minecraft et de Mojang. Enfin, on va passer la news sur Telltale qui s'associe à Lionsgate pour faire des super shows hybrides entre jeux et télévision pour parler de ce qu'attendent les fans de Hideo Kojima. C'est l'annonce du lancement, de la date du lancement de Metal Gear Solid 5. Ça sera le 1er septembre avec un petit 2 semaines de plus pour PC, mais sur console, 1er septembre, Metal Gear Solid 5. Si vous l'attendez comme le Messie, vous aurez votre satisfaction le 1er septembre. Voilà, la news est donnée. Tu attends Metal Gear Solid 5 comme le Messi ?
Non, j'avais adoré le premier qui était vraiment fantastique. Le deuxième m'a moins plu. Et ensuite, mon intérêt est allé vraiment en ordre décroissant. En fait, j'ai un gros souci avec ce genre de jeu, c'est que je déteste le stealth. Donc, déjà, il part avec un handicap. Moi, je suis un gros bourrin, donc...
Et pourtant, t'avais aimé le 1, donc.
J'ai adoré le 1. Bah, le premier était vraiment fantastique. Ensuite, les combats de boss, ils s'étaient quand même vachement dilués, étaient devenus moins originaux et intenses, je trouve, dans les suites.
C'est pas faux. Bon, et bah écoutez, ça va faire. On arrive à la fin donc de cet épisode bien touffu du rendez-vous jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver mon camarade Dany dans un podcast. Peut-être qu'on essaiera de se refaire ça de temps en temps, soit dans le rendez-vous tech, soit dans le rendez-vous jeu. Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part sur Internet s'ils sont intéressés par tes jugements délétères et tes actions maléfiques de gamer méchant?
Voilà, écoutez, alors la torture de petit chat virtuel dans les jeux vidéo, vous pouvez la suivre uniquement virtuelle, hein, parce que sinon c'est quand même trop mignon. C'est sur Twitter, j'ai un compte donc que vous pouvez suivre sous @notdany, N-O-T-D-A-N-Y. C'est Patrick m'a copié un peu sur le pseudonyme il y a quelques années, donc voilà, je tenais à le signaler, mais c'est quasiment pareil.
T'en as pas marre de faire la même blague à chaque fois alors que
c'est
tout le monde
sait que blague, c'est pas une blague et je continue à m'en plaindre tout le temps. C'est très sérieux comme plagiat.
Bon, merci beaucoup Dany d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter. Vous pouvez aussi retrouver l'émission et les commentaires sur le site frenchspin.com. Vous y trouverez aussi d'autres émissions, comme par exemple le Rendez-vous Tech, où vous pourrez retrouver des news un petit peu comme on fait pour le Rendez-vous Jeu, mais pour l'actu tech, donc un résumé qui vous évite d'avoir à écumer tous les blogs et tous les sites de news si vous voulez juste un résumé de tout ce qui s'est passé d'important. C'est sur frenchspin.com et ça va nous amener à la fin de l'émission. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau où on vous parlera beaucoup de la PAX et des annonces qui ont été faites à ce moment. Merci à tous, à la prochaine. Ciao, ciao.
Au revoir.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.